Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 6 décembre 2023 avec vous Eric Panelakiza. D'abord le sommaire. Le Mali et le Niger mettent fin à des traités fiscaux avec la France, annonce officielle des deux gouvernements sahéliens. Le sort de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko pour sa candidature présidentielle en jeu lors de l'audience du 12 décembre sur sa réintégration aux listes électorales. Tentative de coup d'État en Sierra Leone, arrestation des principaux organisateurs et complices, totalisant 60 personnes appréhendées depuis les événements du 26 novembre. Décennies après sa mort, l'héritage de Nelson Mandela perdure dans sa résidence et transformé en maison d'hôte de luxe.
C'était la maison de Madiba. Il a vécu ici pendant 8 ans. C'était une maison où tout le monde était le bienvenu.
Londres et Kigali signent un nouvel accord pour l'expulsion de migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda, suite au rejet précédent de la Cour suprême britannique. Tension croissante entre pêcheurs, artisanaux et industriels au Sénégal autour de l'épuisement des ressources marines.
Les bateaux dragueurs sont en train de décimer nos poissons, de détruire leurs habitations. Ils sont en train de saccager notre mer. Les bateaux de l'Union européenne qui nous ont envahis pêchent nos poissons comme bon leur semble.
Aux États-Unis, ultime débat pour les candidats républicains à la présidentielle avant les primaires américaines de 2024. Profond désaccord sur les énergies fossiles à la COP28. Compromis ou abandon, le dilemme des négociations climatiques. Le transport aérien est sur le point de récupérer son activité pré-endémique avec une croissance significative des vols internationaux et intérieurs, annonce l'IATA. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les gouvernements du Mali et du Niger ont officiellement annulé 2 accords de coopération et d'assistance administrative fiscale avec la France, une décision annoncée par Bamako et Niamey dans un communiqué publié mardi. Les détails avec Nani Tetalani.
L'attitude hostile persistante de la France à l'égard de nos États a ajouté au caractère déséquilibré de ces accords, entraînant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger, indique la déclaration commune de Bamako et Niamey, partagée par le ministère malien des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux. La déclaration a révoqué un accord avec la France datant de 1972 qui visait à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque dans divers domaines fiscaux. L'autre accord avait des objectifs similaires. Il n'y a pas eu de réaction immédiate de Paris. Le Niger et le Mali ont décidé de se distancer de l'ancien colonisateur, la France. Les régimes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont rapprochés pour former l'Alliance des États du Sahel. Aussi, le Burkina et le Niger ont annoncé, à l'instar du Mali, en 2022, leur départ du G5 Sahel.
Un tribunal de Dakar s'apprête à statuer sur la réintégration de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko sur les listes électorales, décision cruciale pour sa candidature à la présidentielle de 2024 suite à une série de controverses judiciaires. Le point avec Rosine Mounezel.
L'audience spéciale est fixée au 12 décembre, indique un communiqué de la Cour d'appel. L'opposant Ousmane Sonko a été radié des listes électorales à la suite de sa condamnation en juin à 2 ans de prison ferme pour débauche de mineurs. La radiation de M. Sonko le rend inéligible pour la présidentielle de 2024 si elle est confirmée. Elle donne lieu à une bagarre judiciaire menée par ses avocats contre l'État, engagée depuis plus de 2 ans. La Cour suprême du Sénégal a cassé le 17 novembre un jugement rendu par un juge de Ziguinchor, ville dont M. Sonko est le maire, annulant sa radiation des listes électorales. La Cour avait décidé que l'affaire doit être rejugée en première instance par le tribunal de Dakar. Quelle que soit la décision judiciaire qui sortira la semaine prochaine, pour qu'une candidature soit entérinée, il faudra à chaque candidat présenter au moins 44 559 parrainages valides.
Le gouvernement Sierra Leone annonce l'arrestation de l'un des principaux organisateurs ainsi que de deux complices présumés de la tentative de coup d'État survenue le 26 novembre. Parmi 60 personnes appréhendées, majoritairement des militaires, suite à des affrontements armés et la perte des vies, de vies humaines. Les précisions de John Lyndon.
60 personnes ont été arrêtées depuis ces événements, en majorité des militaires. L'un des organisateurs de la tentative de coup d'État manqué, Amadou Koïta, figurait en tête de la liste des personnes recherchées. Il a été arrêté lundi, a déclaré le ministre de l'Information lors d'une conférence de presse à Freetown. Ancien militaire et garde du corps de l'ex-président Ernest Bai Koroma, Amadou Koïta était largement suivi sur les réseaux sociaux où il critiquait le gouvernement du président Julius Mada Bio. Il a été hébergé par une policière et un policier qui ont également été arrêtés. Aux premières heures du 26 novembre, des hommes ont attaqué une armurerie, deux autres casernes, deux prisons et deux postes de police, affrontant les forces de sécurité, les armes à la main. Ces combats ont fait 21 morts, dont 14 soldats, selon le ministère de l'Information.
Après le rejet par la Cour suprême britannique d'un accord migratoire entre le Rwanda et le Royaume-Uni, une nouvelle entente a été signée pour l'expulsion des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda, suscitant des débats et mettant en place des garanties juridiques spécifiques. Davantage avec Nathalie Barge.
Le nouvel accord a été signé à Kigali par le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta et le ministre de l'Intérieur britannique James Cleverly. Nous avons poursuivi ce partenariat avec le Royaume-Uni parce que nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans cette crise de l'immigration clandestine, a assuré M. Biruta lors d'une conférence de presse. James Cleverly a déclaré avoir une immense admiration pour le gouvernement rwandais qui a reçu de nombreuses critiques. Après le rejet de la Cour suprême britannique le 15 novembre, Kigali avait déclaré contester la décision selon laquelle le Rwanda n'est pas un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Le nouveau traité répond aux conclusions de la Cour et présente une solution de long terme, explique le ministère britannique de l'Intérieur dans un communiqué. Il comprend la mise en place d'un tribunal conjoint à Kigali pour garantir qu'aucun des migrants envoyés au Rwanda ne soit expulsé vers son pays, a souligné le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, ajoutant que ce tribunal écoutera les plaintes des migrants. En plus du traité, le gouvernement britannique va introduire une législation d'urgence au Parlement pour désigner le Rwanda comme un pays sûr, a précisé le Premier ministre britannique Rishi Sunak. L'accord doit être ratifié par les parlements britanniques et rwandais.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secteur du transport aérien enregistre un redressement significatif post-Covid, se rapprochant à 98% de son activité mondiale de 2019 en octobre, selon l'Association internationale du transport aérien IATA. Les précisions avec Mohamedou Ounf.
Le dynamisme de la fréquentation calculé en passagers kilomètres payants, l'un des indices de référence du secteur, a surtout été tiré par les vols intérieurs qui évoluent à 104% du niveau d'avant-crise, a souligné l'IATA. C'est la Chine, encore soumise il y a un an à des restrictions de déplacement pour tenter de juguler la transmission du Covid-19, qui explique cet état de fait. Les vols intérieurs y ont connu une croissance à trois chiffres par rapport à 2022, a précisé l'IATA dans un communiqué. Les vols internationaux, dont la reprise a été plus tardive après la pandémie, ont également connu en octobre une forte croissance pour atteindre 94% des niveaux du même mois de 2019. Avec les résultats solides d'octobre, le secteur aérien n'a jamais été aussi près de parvenir à une reprise complète du trafic. Après la pandémie, s'est félicité le directeur général de l'IATA, Willy Walsh, cité dans un communiqué. Selon les dernières projections de l'IATA, publiées en juin et censées être actualisées ce mercredi, le transport aérien devrait quasiment retrouver en 2023 le nombre de ses passagers d'avant la crise sanitaire. Au niveau mondial, les compagnies devraient dégager cette année leur premier bénéfice depuis l'éruption du Covid-19.
Les États-Unis vont apporter 21 millions de dollars supplémentaires d'aide humanitaire à Gaza, a annoncé mardi la chef de l'Agence américaine pour le développement lors d'une visite en Égypte. L'ONU redoute une catastrophe humanitaire pour les civils, confinés dans un périmètre de plus en plus réduit dans la bande de Gaza, contrôlé par le Hamas, tandis que l'armée israélienne a étendu ses opérations au sol à l'ensemble du territoire. Le Congrès américain a approuvé mardi plus de 400 nominations de militaires après l'annonce plus tôt par un sénateur républicain de la fin de son blocage de plusieurs mois pour protester contre la politique du Pentagone en matière d'avortement. Les procureurs fédéraux poursuivant Donald Trump pour ses tentatives d'inverser les résultats de l'élection de 2020 ont dévoilé mardi leur intention d'introduire ces preuves, des preuves démontrant selon eux que l'ex-président ne voulait pas quitter le pouvoir. Dans votre actualité économique, suivez la Minute Éco présentée ce matin par John Lyndon.
Dans le rapport d'exécution de son budget pour l'année 2023, le gouvernement du Mali indique être parvenu à mobiliser un peu plus de 1 507 milliards de francs CFA au terme des 9 premiers mois de l'année, contre environ 1 188 pour la même période en 2022. Cette mobilisation représente un taux de réalisation de 71,37% par rapport aux 2 304 milliards de francs CFA projetés dans le budget révisé de 2023. L'Afrique du Sud prévoit de lancer la production de ses premiers véhicules électriques à partir de 2026. L'information a été annoncée par le ministre du Commerce, Ibrahim Patel. L'initiative s'inscrit dans la mise en œuvre du plan Just Energy Transition, un programme de transition énergétique dans l'industrie du transport qui nécessitera un investissement d'un peu plus de 128 milliards de rands entre 2023 et 2027. Le conseil d'administration du FMI vient de donner son accord pour le décaissement de 495 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA dans le cadre d'un programme en cours avec la Côte d'Ivoire. Selon l'agence Ecofin, l'institution a exprimé sa satisfaction concernant l'évolution de la gouvernance économique du pays, leader de la zone UEMOA, avec une croissance estimée à 6,5% en 2023.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les 12 pays qualifiés pour la prochaine CAN féminine Maroc 2024 sont connus.
Effectivement, la RDC a concocté son bien en gagnant 2-1 la Guinée équatoriale 1-1 à l'aller. Après sa défaite à l'aller à Dar es Salaam 3-0, le Togo s'est imposé 1-0 à Lomé et ne verra donc pas le Maroc. C'est la Tanzanie qui arrache ainsi son ticket pour la prochaine CAN. Le Sénégal y sera aussi après son match nul 0-0 contre l'Égypte. Les Sénégalaises avaient remporté la manche aller 4-0. Ça passe aussi pour le Nigeria qui a battu le Cap-Vert 2-1 après le 5-0 à l'aller. Le Mali sera du voyage après leur avoir infligé un 7-2 au match aller. Les Maliens ont encore dominé les Guinéens 2-0. Les Zambiens ont aussi validé leur bien en laminant 6-0 encore les Angolaises, comme au match aller. Ça passe aussi pour le Botswana, vainqueur du Kenya 1-0, 1-1 à l'aller. Mardi, la tenante du titre, l'Afrique du Sud, s'est qualifiée en battant le Burkina Faso 2-0 après le match nul d'un but partout à l'aller. L'Algérie aussi a validé son ticket en battant le Burundi 1-0, 5-1 à l'aller pour les Algériennes. Ces 11 pays rejoignent ici le pays hôte, le Maroc, pour la prochaine CAN féminine en 2024.
Des nouvelles du mondial de handball féminin au Danemark, en Norvège et en Suède.
Le Sénégal a battu hier la Chine 22-15, ce qui évite aux Sénégalaises la dernière place du groupe A. Après son match nul 26-26 contre l'Islande, l'Angola fait face à la Norvège aujourd'hui.
Enfin, Yacouba, le monde olympique favorable aux Russes sous bannière neutre pour les JO de 2024.
Les représentants des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques réclament l'admission le plus tôt possible des sportifs russes et bélarusses sous bannière neutre au JO 2024 de Paris. Selon le communiqué concluant le 12e sommet olympique, cette réunion à huis clos organisée au siège du CIO à Lausanne avait déjà annoncé l'année dernière la réintégration sous condition des deux pays au sport mondial. La présidente de la commission des athlètes du CIO, la finlandaise Emma Terho, a exprimé son approbation pour cette demande des fédérations et des comités nationaux olympiques, précisant que globalement la grande majorité des sportifs sont d'accord que les athlètes ne devraient pas être punis pour les actions de leur gouvernement. Le CIO dit depuis mars qu'il va décider d'une éventuelle admission des Russes et Bélarusses au moment approprié.
Et c'est tout pour les sports. Merci à vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kizado, retour avec vous pour les dossiers du jour. La disparition de Nelson Mandela, survenue il y a 10 ans, laisse toujours un profond vide et son absence se fait toujours ressentir, laissant un héritage marquant en tant que premier président noir d'Afrique du Sud et icône de la lutte contre l'apartheid. Sa résidence de Houghton à Johannesburg, où il a vécu jusqu'à sa mort, est devenue, il y a 2 ans, une luxueuse maison d'hôtes. C'est un reportage de Patricia Huon.
Bienvenue au sanctuaire de Mandela. Bienvenue à la maison.
À l'entrée, une statue de Nelson Mandela qui lit le journal, la chaise verte sur laquelle il s'asseyait, sur les murs, des photos ou encore la copie encadrée d'une lettre qu'il a écrite depuis sa prison.
C'est ici qu'il a vécu, de 1942 à 1998. C'est aussi ici que la fondation Nelson Mandela a été fondée.
À l'étage, les 9 chambres représentent chacune une étape différente de la vie du héros de la lutte anti-apartheid.
Our room 1. Mr. President, this was Nelson Mandela's bed.
La chambre numéro 1, Monsieur le Président, c'était la chambre de Nelson Mandela. La chambre numéro 3 s'appelle le Tata, grand-père. À côté de la chambre, il y a une peinture. Rentrez à la maison, on y voit Mandela, âgé, qui entre dans son village natal, au Cap Occidental. Cela représente la mort, ou plutôt la fin du voyage de Mandela.
Et derrière les fourneaux, on peut encore croiser celle qui fut sa cuisinière personnelle pendant 22 ans. Oli Swadia gère le restaurant de cette maison d'hôtes de luxe et tente d'infuser un peu de l'esprit du héros sud-africain dans ses plats.
C'était la maison de Madiba. Il a vécu ici pendant 8 ans. C'était une maison où tout le monde était le bienvenu. Il pensait que s'il invitait quelqu'un chez lui et qu'il voulait qu'il se sente à l'aise, la nourriture peut parler d'elle-même. La première fois que je l'ai rencontré, nous avons parlé que de nourriture. Mon entretien a été très court. Il voulait savoir si je pouvais cuisiner les plats de son enfance. J'ai dit oui et j'ai eu le boulot.
La chef vient de publier un livre de recettes, principalement des plats traditionnels africains, accompagné d'anecdotes sur Nelson Mandela ou les personnalités qu'il a accueillies à sa table.
J'avais gardé toutes mes recettes, le ragoût de queue de bœuf, notamment que la purée de maïs avec des haricots, c'était ses préférés. Il m'en demandait 2 ou 3 fois par semaine. Il adorait les plats traditionnels. Quand il était à la maison, c'est ce qu'il voulait. Ce que je retiens de lui, c'est l'amour pour les autres, le fait de prendre soin d'eux, partager et les respecter.
Libéré à l'âge de 71 ans, après 27 années d'incarcération, Nelson Mandela voulait aussi profiter des choses familières dont il avait été longtemps privé et les partager. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Les tensions s'exacerbent entre pêcheurs, artisanaux et industriels au Sénégal, les premiers accusant les seconds de piller leurs ressources, créant ainsi un climat de conflit entre les deux parties. Notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson Sambou, donne les détails.
Depuis quelques mois, une ambiance presque funeste règne dans le quai de Rufisque, dans la périphérie de Dakar. Pour les pêcheurs trouvés sur place, le désespoir a fini de s'emparer de leur quotidien. La faute à la rareté du poisson qui, selon eux, les tue à petit feu. Ali Fall, pêcheur. Nous, pêcheurs sénégalais, sommes trop fatigués. Nous ne pouvons pas bénéficier de notre mer à cause des bateaux. Aujourd'hui, rester à la maison vaut mieux qu'aller à la pêche. Aucun pêcheur n'a le courage maintenant parce que nous allons jusqu'à Conakry, jusqu'à Freetown. On navigue des fois jusqu'à 8 jours juste pour chercher du poisson. On dépense parfois jusqu'à 5 millions, mais on n'arrive même pas à gagner 500 000 à la fin. C'est difficile.
500 000, ça donc indale.
Pour les pêcheurs artisanaux, il n'y a aucun doute. La surpêche est à l'origine de leurs déboires. Ils accusent les bateaux de pillage. Pierre Boup est le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Les bateaux dragueurs sont en train de décimer nos poissons, de détruire leurs habitations. Ils sont en train de saccager notre mer. Les bateaux de l'Union européenne qui nous ont envahis pêchent nos poissons comme bon leur semble. Et certains pays n'ont même pas signé d'accord avec le Sénégal, ce qui est problématique. C'est pourquoi nous nous sommes pressés pour que cesse ce qui est en train de se passer dans ce
pays.
Cette situation est à l'origine des tensions entre pêcheurs artisanaux et industriels. Ces derniers rejettent systématiquement les accusations de pillage, d'où les difficultés de cohabitation. El Azian, directeur général d'une entreprise de pêche.
Si certains disent qu'il y a une surpêche, je ne veux pas le nier. Mais toujours est-il que si on parle de surpêche au Sénégal, on cible une seule partie des étrangers. Et ils vont pêcher au-delà des 30 à 40 000. Aucun bateau sénégalais, pirogue sénégalais ne peut pêcher. Et ils ciblent le poisson migrateur. Le poisson migrateur n'appartient pas au Sénégal. Donc, si chacun reste là où on a situé de pêcher, il n'y aura pas d'amalgame.
Et ce conflit est encore loin de connaître son épilogue, car malgré la volonté affichée, on assiste à un dialogue de sourds entre les deux parties. Pendant ce temps, la pêche artisanale continue de sombrer dans les abîmes de la mer. Wahani Johnson Sambou pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal. 20...
La deuxième version du texte clé de la COP 28 à Dubaï révèle des désaccords profonds autour des énergies fossiles. Synthétisant en 24 pages les options débattues par les 200 pays présents, les discussions se concentrent sur la continuité ou l'arrêt de l'utilisation des combustibles fossiles, soulevant des enjeux majeurs lors de la conférence climatique. Yacouba Ouédraogo a interviewé l'économiste et analyste politique Jean-François Seznec, basé dans le Maryland, aux États-Unis, pour apporter un éclairage sur ces débats cruciaux.
Les énergies fossiles sont toutes les énergies qui sont basées sur le carbone qui sort du sol, tout simplement, par exemple le charbon ou le pétrole, c'est les principales bien sûr.
À la COP 28 à Dubaï, ça coince au niveau des discussions, est-ce qu'il faut abandonner ou pas les énergies fossiles? Sur quoi les différents acteurs n'arrivent pas à s'entendre?
Simplement sur un seul mot en fait, c'est sur le fait que est-ce qu'on appelle ça une interdiction ou simplement une diminution. Si la COP 28 exige que dans leur rapport que les pays interdisent les énergies fossiles, ça va créer des problèmes énormes pour beaucoup de pays. Effectivement, ça aiderait certainement à diminuer la consommation. Mais ce n'est pas forcément une très bonne chose à long terme. Si on dit simplement de diminuer l'utilisation, il faut aussi à ce moment-là que l'on dise au pays de diminuer, de faire quelque chose qui est vérifiable. Sinon, ça ne veut rien dire. La bagarre, et bien sûr sur le mot interdiction ou diminution, je ne sais pas comment ils vont résoudre ça, parce qu'en anglais c'est « phase out » ou « phase down ». Ce n'est quand même pas des mots difficiles, mais la signification est vraiment très différente.
Est-ce qu'il est vraiment possible d'abandonner le charbon, le pétrole, le gaz?
Si vous voulez, c'est mon opinion personnelle, mais la réponse est non, c'est absolument impossible. On peut diminuer certainement, et il faut que l'on diminue la consommation et l'offre, mais si on coupe l'offre complètement, les prix vont monter d'une façon extraordinaire, ce qui tuerait des pans entiers des économies du monde.
Est-ce que sur le continent africain où il y a le soleil, il y a le vent, il y a l'eau, c'est possible de passer directement, bien sûr, vers ces énergies renouvelables-là?
Ben non, pas vraiment, parce que par exemple, si on imposait un changement pour faire que des véhicules électriques, tout ça c'est très bien, mais il faut fabriquer les batteries, et les batteries viennent à 95% de la Chine. Donc en fait, tout ce qu'on ferait, c'est remplacer un import par un autre import, si vous voulez. Donc je pense que ce serait effectivement une très mauvaise chose pour l'Afrique, mais il faut bien sûr diminuer la production et diminuer la consommation, mais il faut faire ça à quand même très long terme et ne pas imposer trop, surtout à l'Afrique, parce que les coûts vont être énormes.
Jean-François Seznec, économiste et analyste politique, basé dans le Maryland, ici aux États-Unis.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Cette semaine, nous faisons le point sur la campagne en vue des élections générales du 20 décembre en République démocratique du Congo. Les candidats, surtout ceux à la présidentielle, continuent de sillonner le pays alors que des incidents meurtriers ont été signalés. Les affrontements dans l'Est troublé se poursuivent également au moment où les forces de maintien de la paix se retirent. Quels sont les enjeux de ce grand rendez-vous électoral ? Washington Forum, ce jeudi, à 19h15.
Quatre candidats républicains pour l'investiture présidentielle aux États-Unis se préparent pour le quatrième et dernier débat de l'année, cherchant à convaincre les électeurs avant les primaires de 2024. L'événement offre une opportunité cruciale pour ces candidats de faire valoir leurs arguments auprès du public américain, comme le rapporte Caroline Pressouti de la VOA dans ce récit signé Jacques Aristide.
Il y a un mois de cela, ils étaient 5 candidats républicains à en découdre sur scène. Mais pour le débat télévisé de ce mercredi, le nombre a été réduit à 4 en raison de critères beaucoup plus rigoureux. Leurs objectifs pour le nouveau rendez-vous, tenter de sortir du lot et se distinguer de Donald Trump que Chris Christie, l'ex-gouverneur du New Jersey, ne veut pas voir revenir à la Maison-Blanche. Quant aux autres candidats, ils se montrent prudents afin de ne pas irriter la base électorale de Trump. Andra Gillespie est politologue à l'Université Emory.
Je pense que la question et la difficulté ont été d'identifier quels sont les problèmes et les préoccupations qui animent cette aile du Parti républicain qui n'est pas pour Trump, donc soit l'aile qui est résolument anti-Trump, soit pour les gens qui ont voté pour Trump parce qu'il était le candidat républicain, mais ces gens qui ne sont pas entièrement à sa faveur et qui pourraient être ouverts à l'idée de voter pour quelqu'un d'autre, surtout si Trump commence à paraître trop problématique à cause de tous ses problèmes judiciaires.
Justement, malgré ses ennuis judiciaires, qui incluent 91 inculpations, Donald Trump conserve un avantage considérable. Un sondage réalisé la semaine dernière lui donne une avance de 60% face au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et face à l'ancienne ambassadrice américaine Nikki Haley. Pour la quatrième fois, Trump ne va pas prendre part au débat. Un nouveau sujet de discussion lors du débat de ce mercredi portera sur la libération des otages dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. Les candidats républicains affichent leur soutien à Israël en ligne avec leur parti. Des observateurs s'attendent à les voir critiquer le président démocrate Joe Biden pour ne pas avoir négocié la libération d'un plus grand nombre d'Américains. Ils pourraient également avoir des opinions divergentes sur les stratégies de guerre. Aaron Kahl est directeur des débats à l'Université du Michigan.
Je pense que même s'il y aura une question de cessez-le-feu et de savoir si cela devrait exister ou non, vous savez, continuer à le faire pour essayer de faire libérer davantage d'otages, ou si cela ne réussit pas, alors ils doivent autoriser la poursuite d'une opération offensive à Gaza afin d'essayer de faire partir les otages. Donc, juste de mauvaises tactiques pour obtenir les meilleurs résultats.
Ces candidats à l'investiture républicaine auront 2 heures mercredi soir pour s'adresser aux électeurs de leur parti. Le premier rendez-vous électoral, un caucus, aura lieu dans 6 semaines.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manilakidza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fatouma Alimas Kalala a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.